Nous avons évoqué dans la prière de notre nourriture. Quelle est notre nourriture journalière? Est-ce que nous nous nourrissons de la personne du Seigneur Jésus tous les jours? Est-ce que il est véritablement notre nourriture, se nourrir de Christ? Et comment se nourrir de Christ? Eh bien, c'est en lisant la parole de Dieu. Un premier verset dans les Colossiens. Colossiens 3, le début du verset 16. Que la parole du Christ habite en vous richement. Ici, ce n'est pas la parole de Dieu, c'est la parole du Christ, c'est-à-dire la parole qui nous parle du Seigneur Jésus dans sa vie terrestre jusqu'à la croix, mais aussi après son ascension dans le ciel, il est maintenant assis à la droite de Dieu. Que la parole du Christ habite en vous richement. Est-ce que notre lecture journalière, nous cherchons à connaître davantage le Seigneur Jésus dans les Écritures? Dans l'Évangile de Luc, au chapitre 24, au verset 27, et commençant, c'est le Seigneur, et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliquait dans toutes les Écritures les choses qui le regardent. Est-ce que quand nous lisons l'Ancien Testament, quand nous lisons le Nouveau Testament, est-ce que nous avons à cœur de chercher ces choses qui le regardent? Dans les actes, au chapitre 8, verset 34. Et l'eunuque répondant dit à Philippe, je te prie, de qui le prophète dit-il cela? Ésaïe 53, nous avons lu un dimanche dernier, et l'eunuque cherchait à savoir de qui il s'agissait. Un autre verset dans l'évangile de Luc, au chapitre 11, il y a une expression un peu particulière. Au verset 52. Malheur à vous, les docteurs de la loi, car vous avez enlevé la clé de la connaissance. Qu'est-ce que c'est que la clé de la connaissance? Eh bien, c'est Christ. C'est la seule clé qui nous parle dans les Écritures. Et que ce soit dans l'Ancien Testament ou dans le Nouveau Testament, si nous désirons comprendre de tous ces types qui nous parlent du Seigneur Jésus, eh bien, il faut que nous ayons cette clé de la connaissance. La clé de la connaissance de la parole de Dieu, c'est Jésus-Christ lui-même, parce qu'il en est le centre. Depuis le début jusqu'à la fin, Christ est la clé de la connaissance. Et c'est par l'Esprit de Dieu que nous pouvons comprendre les Écritures, et l'Esprit de Dieu va nous conduire dans la vérité. Pourquoi ? C'est pour que nous trouvions Christ, qui est cette clé de la connaissance. Et nous devons prendre cette clé quand nous lisons les Écritures, afin qu'elles nous révèlent tout ce qui nous est dit de la personne du Seigneur Jésus. Il est la clé de la connaissance. Que la parole du Christ habite en vous richement. Est-ce que nous avons une lecture régulière de la parole de Dieu? Est-ce que nous sommes attachés à la lecture de la parole de Dieu? Est-ce que journalièrement, nous désirons nous nourrir de cette parole? Les Israélites, dans le désert, il nous est parlé dans les Nombres qu'ils désiraient, qu'ils s'étaient lassés de la manne. Et ils soupiraient, Nombre au chapitre 11, et ils soupiraient après ce qu'ils avaient mangé en Égypte. Nombre 11, verset 5. Il nous souvient du poisson que nous mangions en Égypte pour rien, des concombres et des melons et des poireaux et des oignons et de l'ail. Les Israélites dans le désert, ils s'étaient lassés de la manne. Et ils cherchaient donc, ils désiraient ou ils soupiraient après ce qu'ils mangeaient en Égypte. Dans le monde. On a dit que la valeur nutritive des concombres, des melons et des poireaux et des oignons et de l'ail et même du poisson, il n'y a pratiquement pas de valeur nutritive. Nous ne pouvons pas nous nourrir de tout ce qui vient du monde. Et la seule nourriture que nous pouvons trouver, c'est dans la parole de Dieu. Et Christ lui-même est un aliment dont nous devons nous nourrir. Et non seulement ces concombres, ces melons, ces poireaux et ces oignons et ces ail avaient peu de valeur, ou pratiquement pas de valeur nutritive, mais ils pourrissaient très rapidement. Et nous connaissons la parole de Dieu qui est vivante et permanente. Et si nous nourrissons de la parole de Dieu, eh bien c'est une valeur nutritive, si on ose dire, mais qui est permanente, qui continue. Dans le monde, si on cherche à nous nourrir de tout ce que peut nous présenter le monde, les médias, beaucoup de choses, eh bien, il n'y a pas cette valeur nutritive. Et la première chose dans Exode 12, dans notre vie chrétienne, nous devons d'abord nous nourrir de l'agneau de Pâques. Et au verset 5 du chapitre 12 de l'Exode, vous aurez un agneau sans défaut, mâle, âgé d'un an. Vous le prendrez d'entre les moutons ou d'entre les chèvres et vous le tiendrez en garde jusqu'au 14e jour de ce mois, et toute la congrégation de l'Assemblée d'Israël l'égorgera entre les deux soirs. Et ils prendront de son sang et en mettront sur les deux poteaux et sur le linteau de la porte, aux maisons dans lesquelles ils le mangeront, et ils en mangeront la chair cette nuit-là. Ils la mangeront rôtie au feu avec des pains sans levain et des herbes amères, vous n'en mangerez pas, qui soient à demi-cuits ou qui aient été cuits dans l'eau, mais rôtis au feu, la tête et les jambes et l'intérieur. Au début de la vie chrétienne, nous devons d'abord commencer par l'agneau pascal. Cet agneau qui était offert et dont le sang était mis sur les linteaux de la porte. Et nous devons commencer par nous nourrir de cet agneau qui était sans défaut et sans tache et qui a été rôti au feu, la tête et les jambes et l'intérieur. Nous comprenons bien qu'il s'agit ici du jugement qui est tombé sur le Seigneur Jésus à la croix et qui concernait nos péchés et le péché. Et nous devons bien comprendre, en saisir le sens au début de notre vie chrétienne. Mais après, au début de notre vie chrétienne, et il nous est parlé dans le livre de Josué, chapitre 5, et les fils d'Israël campèrent à Gilgal et ils célébrèrent la Pâque le 14e jour du mois au soir dans les plaines de Jéricho, et dès le lendemain de la Pâque ils mangeaient du vieux blé du pays, des pains sans levain et du grain rôti en ce même jour-là. Les fils d'Israël s'étaient nourris de la manne dans le désert. Et maintenant, ils sont entrés dans le pays de la promesse. Et nous voyons qu'ils mangent maintenant du vieux blé du pays, des pains sans levain et du grain rôti en ce même jour-là. Et nous lisons, et la manne cessa dès le lendemain, après qu'ils eurent mangé du vieux blé du pays, et il n'y eut plus de manne pour les fils d'Israël. Nous sommes appelés maintenant à nous nourrir de Christ dans les évangiles qui nous parlent de son incarnation, de son humiliation, qui nous parle du sacrifice de la croix et puis de la résurrection. De la résurrection, donc le Seigneur a été ressuscité le troisième jour et peu de temps après, il est monté dans le ciel et il est assis à la droite de Dieu dans le ciel. Et ce vieux blé du pays et des pains sans levain et du grain rôti nous parle donc de Christ maintenant qui est glorifié et ressuscité dans le ciel. Non seulement Nous avons à nous nourrir de sa personne dans les évangiles, dans son humiliation, dans sa vie terrestre. Mais maintenant qu'il est ressuscité et glorifié dans le ciel, nous avons à nous nourrir de sa personne, le contempler dans le ciel, de telle manière que dans cette contemplation, nous apprenions à le connaître davantage. Dans la deuxième épître aux Corinthiens, au chapitre 3, il nous est dit: « Nous tous, contemplant à face découverte la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur en esprit. » De quoi sommes-nous nourris journalièrement? Nous prenons soin de nos corps en mangeant matin, midi et soir. Mais est-ce que nous avons le même soin pour nos âmes? Est-ce que nous avons ce désir de nourrir de la personne du Seigneur Jésus, et que cette parole qui nous parle de lui habite richement dans nos cœurs?
Dans notre cantique, nous avons chanté cette expression: Ô Jésus-Christ, Jésus, lumière, amour. C'est quelque chose qui nous est familier, si on peut dire, d'évoquer l'amour du Seigneur. Et c'est quelque chose de très précieux. Mais nous avons lu aussi ce matin au culte ce passage de Matthieu qui reprend Ésaïe et qui évoque ce peuple assis dans les ténèbres qui a vu une grande lumière. Et à ceux qui sont assis dans la région de l'ombre, dans l'ombre de la mort, la lumière s'est levée sur eux. À la suite du verset nous dit: « Dès lors, Jésus commença à prêcher et à dire « Repentez-vous, car le royaume des cieux s'est approché. » Nous nourrir de Christ, c'est nous nourrir de lui dans tout ce qu'il est. Dieu est lumière, Dieu est amour. Et dans ce passage de Matthieu, c'est solennel de voir comment, bien sûr, Ésaïe, en perspective, derrière cette citation, nous parle d'Israël, du peuple d'Israël, et on retrouve à travers le Nouveau Testament explicité des choses annoncées par les prophètes de cet endurcissement qui est venu sur Israël, de cet aveuglement, de ces ténèbres dans lesquelles aujourd'hui est Israël parce qu'il a rejeté le Seigneur. Mais plus littéralement pour nous, il y a cette image qui traverse la parole. On pourrait passer beaucoup de temps à relever toutes ces occasions où ce contraste entre ténèbres et lumière, et où ce passage des ténèbres à la lumière, ou au contraire, malheureusement, cet enfoncement, si on peut dire, dans les ténèbres, est évoqué. Associé à cette citation, le service du Seigneur est présenté comme commençant par ces mots: « Repentez-vous, car le royaume des cieux s'est approché. » Arriver à la lumière, dans la lumière de Dieu, goûter à cette lumière, commence par la repentance. Il n'y a pas de chemin avec le Seigneur, il n'y a pas de chemin vers lui, il n'y a pas de chemin pour lui qui ne commence par la repentance. Et alors, je voudrais juste passer en revue quelques passages. On était sur la deuxième épître aux Corinthiens, là, à l'instant, où il nous est parlé de contemplant à face découverte, la gloire du Seigneur. Un peu après, un peu avant, il nous est parlé du voile, verset 14, concernant Israël, leur entendement a été endurci, car jusqu'à aujourd'hui, dans la lecture de l'Ancienne Alliance, ce même voile demeure sans être levé, lequel prend fin en Christ. Un voile qui masque, qui cache les choses célestes, qui cache, qui rend incapable de voir les mystères révélés de Dieu, qui trouve sa fin en Christ. Plus loin, dans ce même paragraphe où cette image est reprise, verset 6, on a cette belle expression, ce si beau verset, « Car c'est le Dieu, ou car c'est Dieu qui a dit que du sein des ténèbres la lumière resplendit, qui a relui dans nos cœurs pour faire luire la connaissance de la gloire de Dieu dans la face de Christ. » Un verset très dense. C'est Dieu qui parle et qui nous est présenté comme le Dieu qui a dit que du sein des ténèbres la lumière resplendit. Ça nous renvoie à Genèse 1. Mais ça nous renvoie aussi à l'incarnation du Seigneur, à la venue du Seigneur sur la terre, lui qui a reluit dans nos cœurs, lui par qui nous pouvons entrer dans la connaissance de la gloire de Dieu, qui a reluit dans nos cœurs pour faire luire la connaissance de la gloire de Dieu dans la face de Christ. Et alors, je voudrais prendre deux passages du livre des Actes où est évoqué ce cheminement. D'abord en acte 13, Antioche de Pisidie, Paul et Barnabas, premier voyage missionnaire, et qui sont dans la synagogue et qui s'adressent aux Israélites et aux gens des nations qui fréquentaient la synagogue. Mais ce premier discours relativement long, relativement détaillé qui nous est donné là, s'adresse premièrement à des Israélites qui sont encore ignorants de la venue du Seigneur et de son œuvre accomplie. Et au verset 38, « Sachez donc, comme frères, que par lui vous est annoncée la rémission des péchés, et que de tous ceux dont vous n'avez pu être justifiés par la loi de Moïse, quiconque croit est justifié par lui. Prenez donc garde qu'il ne vous arrive ce qui est dit dans les prophètes, voyez, contempteurs, et étonnez-vous et soyez anéantis, car moi je fais une œuvre en vos jours, une œuvre que vous ne croiriez point si quelqu'un vous la racontait. » Et comme ils sortaient, ils demandèrent que ces paroles leur fussent annoncées le sabbat suivant. Et on voit que dans la suite du paragraphe, le sabbat suivant, presque verset 44, presque toute la ville fut assemblée pour entendre la parole de Dieu, mais les Juifs, voyant les foules, furent remplis de jalousie et contredirent ce que Paul disait, contredisant et blasphémant. Verset 16 au milieu, ou même verset 16 tout court, et Paul et Barnabas s'enhardissant dirent, c'est à vous premièrement qu'il fallait annoncer la parole de Dieu, mais puisque vous la rejetez et que vous vous jugez vous-même indigne de la vie éternelle, voici nous nous tournerons vers les nations, car le Seigneur nous a commandé ainsi, je t'ai établi pour être la lumière des nations, afin que tu sois en salut jusqu'au bout de la terre. Et lorsque ceux des nations entendirent cela, ils s'en réjouirent et ils glorifièrent la parole du Seigneur. Et tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent, et la parole du Seigneur se répandait par tout le pays. Je t'ai établi pour être la lumière des nations, afin que tu sois en salut jusqu'au bout de la terre. On a vu il n'y a pas longtemps ce début du livre de l'Évangile de Luc avec Siméon qui dit des paroles très ressemblantes. Luc 2. Mes yeux ont vu ton salut, lequel tu as préparé devant la face de tous les peuples, une lumière pour la révélation des nations et la gloire de ton peuple Israël. Par lui, vous est annoncée la rémission des péchés. et que de tous ceux dont vous n'avez pu être justifiés par la loi de Moïse, quiconque croit est justifié par lui. En un seul verset ou deux versets, nous est résumé là toute l'épître aux Romains. Les ténèbres à la lumière, ceux qui étaient injustes, qui n'avaient pas accès à Dieu, en lui, il y a rémission des péchés, justification. Et justification de tout ce que la loi de Moïse ne pouvait pas faire. Alors, en regard de ça, mais je ne vais pas le lire tout de suite, on va d'abord prendre un autre passage des Actes, mais en regard de ça, on a un verset qu'on lira après, je voudrais d'abord encore lire au chapitre 17, où Paul est à Athènes, et devant des païens cette fois-ci, il relève, on passe au début de ce discours, verset 23, « En passant et en contemplant les objets de votre culte, j'ai trouvé aussi un autel sur lequel est inscrit « Au Dieu inconnu ». Un peu avant, il nous était dit que je retrouve le verset 16, « Comme Paul les attendait à Athènes, son esprit était excité au-dedans de lui en voyant la ville remplie d'idoles. » Remplie d'idoles. Remplie de ténèbres. Rempli de ce qui est des figurations qui montrent les ténèbres qu'il y a dans le cœur de l'homme sans Dieu et qui entretiennent ces ténèbres. Et là, Paul relève là seul un vague rayon de lumière, cet autel marqué au Dieu inconnu. Il y a donc quelque chose chez ces Athéniens qu'il est troublé dans cette multitude d'idoles. Le Dieu qu'ils auraient peut-être oublié. Oui, le Dieu qu'ils avaient complètement oublié. Si on reprend les expressions du premier chapitre de l'Épître aux Romains, les hommes dans leur ignorance, dans leur refus de Dieu, qui se sont fait des représentations de Dieu à travers des êtres et des objets créés par Dieu. Toutes ces idoles. Et alors, qu'est-ce qu'il nous dit dans ce discours? Pas après pas, il amène jusqu'à ce verset 30. « Dieu donc, ayant passé par-dessus les temps d'ignorance, ordonne maintenant aux hommes que tous, en tout lieu, ils se repentent, parce qu'il a établi un jour auquel il doit juger en justice la terre habitée par l'homme qu'il a destiné à cela, de quoi il a donné une preuve certaine à tous l'ayant ressuscité d'entre les morts. » De ce Dieu inconnu, il les prend comme par la main pour les conduire à Christ. Et Dieu, ayant passé par-dessus les temps d'ignorance, Dieu fait comme s'il ne voyait plus, s'il ne tenait plus compte de ce qu'il appelle par grâce un temps d'ignorance. Comme s'il prenait l'homme comme n'étant pas responsable de son état, non. Si, bien sûr, il est responsable. Et il est surtout responsable s'il refuse d'en sortir. Mais voilà, dans ce temps d'ignorance, il y a une lumière, il y a quelque chose, il y a quelqu'un, il y a le Seigneur qui leur est proposé, qui leur est placé devant eux. Remarquons que, au milieu du verset 30, il ordonne. Il y a d'un côté la grâce de Dieu devant l'ignorance, mais d'un autre côté, il y a sa pleine autorité de Dieu souverain qui ordonne à sa créature de se repentir. On retrouve cette repentance. Une repentance un peu différente que celle de Matthieu. Dans Matthieu, le Seigneur s'adresse à son peuple, Israël, qui avait une autre responsabilité, de nature différente. Là, il s'adresse à des nations. Et il y a ce jour qui est mis en perspective où Dieu va juger. Il y a, on peut dire là, une fenêtre ouverte entre un temps d'ignorance et un temps du jugement, où il est possible de venir. Et ce jour où il doit juger la terre habitée par l'homme qu'il a destiné à cela, de quoi il a donné une preuve certaine à tous l'ayant ressuscité d'entre les morts. Seigneur Jésus n'est pas présenté là comme le Messie annoncé, mais comme l'homme que Dieu a destiné, celui que Dieu a destiné comme acteur, ayant pleine autorité pour le jugement à venir, mais maintenant auteur du salut pour tous ceux qui viennent. Alors maintenant, je voudrais arriver à ce verset que je n'ai pas lu tout à l'heure, qui concerne chacun, juif et nation, et chacun de nous individuellement. Ou Pierre, 1 Pierre 2, verset 9. Paul s'adresse à ceux à qui il écrit. Il écrit bien sûr à ceux de la dispersion, donc peut-être d'abord des Juifs, mais en même temps, il a en vue l'Église telle qu'elle est en son temps, partout, là où il écrit. Mais vous, vous êtes une race élue, une sacrificature royale, une nation sainte, un peuple acquis pour que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, mais qui maintenant êtes le peuple de Dieu. Vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde, mais qui maintenant avez obtenu miséricorde. Celui qui vous a appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière. C'est un verset qui est d'une richesse extraordinaire. Il nous a appelés des ténèbres pour nous placer dans sa lumière. Là où il y a cette lumière, il y a Christ. On a évoqué cette nourriture, nous nourrir de Christ, c'est nous placer dans sa lumière. Et inversement, nous placer dans sa lumière, c'est nous nourrir de lui. Et alors, vous êtes maintenant, vous êtes une race élue, sacrificature royale, une nation sainte, un peuple acquis. Toute cette énumération qui nous donne autant de facettes de ce qu'est maintenant, ce que j'appellerai pas littéralement l'Église, mais quelque chose de un terme un peu plus vaste, le peuple de Dieu. Avec le verset 10, où Pierre reprend ce qui était dit à Osée, « Tu n'es pas mon peuple, l'eau a mis. » Et maintenant, il détourne ce passage qui concerne Israël pour dire, « Vous qui n'étiez pas un peuple, » mais qui maintenant est le peuple de Dieu. Le peuple de Dieu fait de juifs et de nations. Le peuple de Dieu fait de croyants de toutes les dispensations. Le peuple de Dieu qui lui appartient et qui a ces différentes facettes, race élue, sacrificature royale, nation sainte, un peuple acquis, et qui a une mission pour que vous annonciez les vertus de celui qui, on a vu tout à l'heure, briller de la lumière de Christ, annoncer les vertus du Seigneur. Nous ne pouvons briller la lumière de Christ que si nous tenons près de lui. Un miroir ne renverra que la lumière de la source de lumière qui est en face de lui. Un miroir placé dans les ténèbres ne renverra aucune lumière. Un miroir sale, terni, renverra une pâle lumière. Il y a deux images là, dans cette idée du miroir, refléter Christ. Et puis alors, vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, nous étions nation, et les Éphésiens nous disent, sans droit de cité en Israël, étrangers aux promesses de Dieu, et nous sommes maintenant dans cette place de Dieu, près de Dieu, qui maintenant est le peuple de Dieu. Vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde, mais qui maintenant avez obtenu miséricorde. Nous qui étions, avant la venue du Seigneur, pour un homme des nations, le seul chemin était de se joindre à Israël. Maintenant, les choses sont différentes. Le seul chemin est de venir à Christ. Lui qui nous a appelés des ténèbres à sa merveilleuse lumière. La lumière, Dieu lumière, a deux côtés. C'est à la côté de la lumière qui met toutes choses à nu. Mais c'est aussi la lumière qui ne laisse plus aucune ombre. Toute chose étant à nu, il n'y a plus rien de caché. Le premier côté est un côté qui peut inquiéter quand la conscience n'est pas à l'aise. Le deuxième côté, c'est le côté qui rassure. Toutes choses sont mises à nu, il n'y a plus d'ombre. Et il y a ce passage par cette pleine lumière pour goûter pleinement à l'autre côté, Jésus, amour. Nous ne goûtons pas pleinement à son amour s'il y a des ombres, des nuages entre nous et lui. Il faut que tous ces nuages soient ôtés pour que nous goûtions pleinement à son amour. Nous nourrir de Christ, combien c'est important, mais combien, pour nous nourrir de lui, il y a cette nécessité d'une remise en question, d'un examen de nos cœurs, de nos consciences devant lui. Les sacrificateurs devaient passer à la cuve des reins tout au long d'un service, avant toute occasion pour entrer dans le lieu saint, et d'autant plus pour le lieu très saint, une fois l'an. Il y avait cette cuve des reins à laquelle il fallait passer pour se laver les pieds, qui parle de la marche, qui lave les mains, qui parle de nos œuvres. Nous tenir dans sa lumière, lui laisser éclairer de sa lumière tout notre être intérieur, goûter à ce bienfait qu'il y a d'avoir été tiré des ténèbres pour goûter à sa pleine lumière et alors pleinement goûter à son amour.
Juste très rapidement un verset dans Ésaïe 21. Ésaïe 21, verset 11. Donc c'est le début d'un oracle, d'une prédication qui est faite par le prophète. Je prends au milieu, un peu plus loin, « Sentinelle, à quoi en est la nuit ?» Où en est la nuit ?« Sentinelle, où en est la nuit ?» La sentinelle dit « Le matin vient et aussi la nuit. Si vous voulez vous enquérir, enquérez-vous. Revenez, venez. » Juste pour rester très rapidement sur cette image de la lumière et de la nuit. Lumière et ténèbres, bien sûr, ça, les ténèbres ont une forte connotation morale. Hein, c'est le domaine de Satan, comme la lumière est celui de Dieu. Ces images sont reprises un petit peu autrement, même ici tout à fait autrement. Et je voulais juste ouvrir un peu cette parenthèse. On a ici une sentinelle. Une sentinelle, vous savez que à l'époque, il y avait bien sûr des villes fortifiées, des remparts, des tours de guet. Et que, eh bien, il fallait placer des gens justement à ces endroits pour qu'ils regardent et qu'ils voient éventuellement les ennemis arriver pour prévenir le peuple. Ici, cette sentinelle, eh bien, elle ne voit rien. Elle dit tout simplement le matin vient et aussi la nuit, ce qui est un peu curieux ici. Tout homme peut dire effectivement en pleine nuit que le matin vient et que la nuit est toujours là. Voilà, ça c'est le regard un petit peu humain, et puis on peut trouver cette sentinelle un petit peu désorientée, déboussolée, ne sachant pas trop où regarder. Cette image est très présente dans l'Ancien Testament, à cause de ces villes fortifiées. Et je crois que c'est une image que le Nouveau Testament a complètement changée. Parce que celui qui est debout dans la nuit, celui qui veille, celui qui est dans cette position d'attente, eh bien, il est tourné vers le jour, ce qui n'apparaît pas ici. Voilà. Est-ce que ce n'est pas fondamentalement, justement, une très belle image de ce qu'est l'espérance, de celui qui, sachant qu'il est dans la nuit, et bien qu'il y a un jour qui vient. La nuit est cette très belle image aussi que nous donne la parole, je crois, pour qualifier tout simplement notre existence. On parlait de ce que nous vivons. Nous sommes d'une certaine manière dans la nuit. Une nuit qui nous enveloppe, qui peut parfois nous étreindre, qui rend la marche peut-être un peu difficile. Une nuit dans laquelle aussi on peut avoir des épreuves. Et une nuit dont on s'impatiente, parce qu'on aimerait bien qu'elle cesse. Eh bien, cette nuit, pour le croyant, n'est pas la nuit. Ce n'est pas la fin en soi. Cette nuit, eh bien, elle est habitée par une espérance, justement. Cette espérance que les vierges folles, par exemple, n'ont pas réussi à tenir jusqu'au bout, mais que l'on voit apparaître tout à la fin de l'Apocalypse, hein, dans ce passage que nous avons un peu lu aussi. Sur quoi se termine l'Apocalypse ? Eh bien, justement, on est bien sûr dans la prophétie, quelque chose qui ne s'est pas encore réalisé ici. Jésus qui dit « Moi, je suis l'étoile brillante du matin. Hein, » Et l'Église, parce qu'elle était en état de veille, parce qu'elle est dans cette attente, eh bien, elle perçoit justement la profondeur de cette parole et elle dit « Viens ». On a une image analogue, revenir effectivement à Luc 2, où on voyait les bergers qui étaient en état de veille. Hein, ce qu'ils gardaient, ils gardaient les moutons, ils gardaient le troupeau. Et tout de suite après, c'est presque un enchaînement logique, il y a l'ange qui vient à leur rencontre et puis qui fait resplendir la gloire de Dieu autour d'eux. Hein, voilà ce que dit le texte. Voilà, il y a ceux qui attendent, ceux qui veillent, qui sont dans la nuit, mais qui savent que ce jour vient.